Galates chapitre 5 pour notre méditation de ce matin. L'épître de Paul aux Galates. Galates chapitre 5, versets 1 à 18. Au nom de Jésus. Le Christ nous a libérés pour que nous soyons vraiment libres. Demeurez donc fermement dans cette liberté et prenez garde de ne pas redevenir des esclaves. Écoutez, moi, Paul, je vous l'affirme, si vous vous faites circoncire, alors le Christ ne vous servira de rien. Je tiens à déclarer encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est obligé d'obéir à la loi tout entière. Vous qui cherchez à être reconnu juste devant Dieu en obéissant à la loi, vous vous êtes séparés du Christ. Vous êtes privés de la grâce de Dieu. Quant à nous, nous espérons que Dieu nous rendra juste devant lui. C'est ce que nous attendons par la puissance du Saint-Esprit qui agit au travers de notre foi. Car si nous sommes unis à Jésus-Christ, être circoncis ou ne pas l'être n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est la foi qui agit par l'amour. Vous avez pris un si bon départ. Qui vous a fait cesser d'obéir à la vérité? Ce que l'on vous a dit pour vous convaincre ne venait pas de Dieu qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte, comme on dit. Cependant, le Seigneur me donne confiance à votre sujet. Il me rend certain que vous n'allez pas penser autrement que moi, mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, sera puni par Dieu. Quant à moi, frère, s'il était vrai que je prêche encore la nécessité de se faire circoncire, pourquoi continuerait-on à me persécuter? Dans ce cas, le message que j'annonce au sujet du Christ cloué sur la croix ne serait plus scandaleux pour personne. Je souhaite que ceux qui vous troublent aillent encore plus loin dans leurs pratiques qui se châtrent. Quant à vous, frères, vous avez été appelés à être libres. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon les désirs de votre propre nature. Au contraire, laissez-vous guider par l'amour pour vous mettre au service les uns des autres. Car toute loi se résume dans ce seul commandement, aime ton prochain comme toi-même. Mais si vous agissez comme des bêtes sauvages, en vous blessant et vous maltraitant les uns les autres, alors prenez garde, sinon vous vous détruirez les uns et les autres. Voici donc ce que j'ai à vous dire. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et n'obéissez pas aux désirs de votre propre nature. Car notre propre nature a des désirs contraires à ceux de l'Esprit et l'Esprit a des désirs contraires à ceux de notre propre nature. Ils sont complètement opposés l'un à l'autre, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Si l'Esprit vous conduit, alors vous n'êtes pas soumis à la loi. Amen. Chers amis, je ne peux pas vous cacher ma joie et ma satisfaction face à ce genre de texte, car je retrouve là le Paul que j'aime. Tel que je le connais, tel que je l'apprécie beaucoup. Toutefois, il y en a tellement de personnes aussi qui détestent Paul, surtout quand ils sont confrontés face à ce tel propos. Et je vais vous montrer pour quelles raisons, justement, ces idées divergent tellement sur Paul et surtout sur sa théologie à travers ce texte que le lectionnaire a choisi pour nous aujourd'hui. Ici, Paul frappe très fort sur la table. Ça suffit, Galate, stupide. Il prend un coup de colère. Il utilise des mots très durs, comme au chapitre 1, même si on ne l'a pas lu, verset 8. Mais si nous-mêmes, dit Paul, même un ange qui vient du ciel vous annoncerait une autre évangile différente de celle que nous vous avons annoncée, qu'il soit anathème, c'est-à-dire maudit soit-il. Ces personnes qui ont annoncé autre chose et qui ont fait douter la communauté sur l'évangile grand E, l'évangile de Jésus-Christ qui a été prêché par Paul, sont appelés ici, dans notre texte, les intrus qui ont épié la liberté qu'ils ont reçue du Christ. Au chapitre 4, verset 1, il ne mâche pas ces mots en disant « Galate, stupide » ou dans d'autres versions « idiot ». Un apôtre ne devrait pas dire ce genre de mots. Idiot, stupide. Alors, je me suis dit, pourquoi telle colère dans l'épître de Galates? Pourquoi tellement de sévérité? C'est parce qu'ils ont été libérés, dit Paul. Vous avez été libérés de l'esclavage de la loi et vous voulez revenir en arrière en délaissant la grande liberté que vous avez reçu du Christ. Alors c'est idiot, n'est-ce pas? Quelqu'un qui a été libéré de la prison, imaginez, il sort de la prison, 2 minutes après, il commet un crime. C'est idiot. Il revient en arrière. Ah donc, ce qu'il est en train de dire ici, ce n'est pas une insulte, non? Ce n'est pas des gros mots, comme on dit. C'est pour dire, c'est insensé. Oui, on ne le nie pas. Paul parle très dur. Pourquoi? Parce qu'il veut protéger la foi des Galates. Cette foi qui est menacée par deux bords, deux dangers. Et je suis tellement étonné de voir que ce texte est d'actualité d'aujourd'hui, dans la réalité des églises aujourd'hui, la réalité du monde où on vit. Ces deux dangers qui nous guettent étaient aussi dans l'épître aux Galates. Le premier danger, le légalisme. D'un côté, et de l'autre bord, le laxisme, si on utilise notre langage d'aujourd'hui. Voilà un peu si on résume. Faites attention, ne tombez pas dans les deux extrêmes, le légalisme vis-à-vis de la loi et le laxisme par rapport à nos frères et sœurs. Alors, Paul met en garde principalement d'abord l'Église contre les légalistes. Les légalistes qui sont à l'intérieur de l'Église, et je tiens bien à le souligner, ce que Paul appelle les intrus. Ce sont des chrétiens, dans le texte, d'origine juive, qui ne sont pas d'accord avec la théologie de Paul. Depuis le début, Paul n'a pas été apprécié par les chrétiens, je vous assure, par les conservateurs, par ceux qui croyaient être puritains dans l'Église. Ils trouvent que la foi proclamée par Paul était trop simple. La justification uniquement par la foi, ça ne suffit pas, il faut ajouter la circoncision. Et comme disait un exégète, ces intrus dans l'Église sont en train d'altérer l'Évangile ou de compliquer le message de l'Évangile qui est pourtant si simple que cela. C'est trop facile. Dire avoir la foi en Jésus suffit pour être sauvé. Oui. Pourquoi compliquer les choses? Et c'est ça le problème dans l'Épître aux Galates. Il y a certains qui disent, ça ne suffit pas. Il faut rajouter quelque chose. Il faut participer à notre salut. Et ça, c'est du synergisme qui est une hérésie. Et c'est là le problème avec le légalisme, chers frères et sœurs en Christ. Ces gens-là, ils se montrent exigeants dans leur démarche de la foi. Les légalistes veulent rajouter quelque chose au salut, le salut qui a été déjà fait une seule fois à la croix par le Christ. Et ça suffit largement. Il a tout payé et de façon gratuite. Mais pour certains, ça ne suffit pas. Tout compte fait, ces gens-là veulent se montrer plus purs que les autres. Vous savez, les légalistes, ce n'est pas dans le but de faire plaisir à Dieu, mais il y a en quelque sorte un besoin chez eux de se montrer plus juste que les autres. Moi, je jeûne 10 fois par semaine. Et toi, tu en fais combien? Moi, je suis ici, toi, tu es là. Moi, je donne 1000 euros par mois à la dîme. Toi, tu en donnes combien? Voilà l'esprit légaliste. Comme le pharisien, oh Seigneur, merci, je ne suis pas comme l'autre là qui est au fond. Les légalistes. Il y a une sorte de concurrence en matière de performance spirituelle afin de se mesurer et se faire valoir auprès des autres pour se montrer qu'il est plus élevé au niveau spirituel. Mais comme Paul le dit très bien ici, c'est inutile. Je me rappelle toujours mon prof au séminaire quand il nous disait, ce que tu viens de nous dire, ce que tu viens de nous prêcher est vraiment bien, est vraiment génial, mais c'est inutile. Et quand tu entends ça, c'est difficile à avaler. Parce qu'on était hors sujet du texte, c'était pour ça. C'est beau, c'est génial, mais c'est inutile. Et cela ne sert strictement à rien, dit Paul, car ce n'est plus un acte de foi ce que tu es en train de faire. Dans le sens, faire confiance uniquement à ce que Dieu a fait pour nous, mais aussi ce qu'il a pu contribuer pour nous. Une fois, lors de nos échanges entre nos deux paroisses ici à Namur et Elzeau de Strasbourg, j'ai eu une discussion avec le pasteur d'Elzeau pendant qu'on faisait nos balades avec les deux paroisse dans l'église, l'Union des églises protestantes d'Alsace-Lorraine. Et nous étions en train d'échanger sur nos vies paroissiales respectives dans le tram sur Homme de Fer, je me rappelle bien. Et à la fin de nos échanges, nous sommes tous les deux arrivés à une même conclusion. On s'est dit, comment ça se passe chez toi? Eh bien voilà, et chez toi? Eh bien chez nous, c'est comme ceci et cela. Et à la fin de nos échanges, on s'est dit tous les deux, comment se fait-il que les gens n'aiment pas la liberté donnée par l'Évangile, mais ils veulent toujours rajouter une couche. Et pas n'importe quelle, c'est une couche contraignante. Ils aiment bien qu'on les fasse peur. Ils aiment l'obligation, ils aiment la contrainte, ils aiment qu'on les fasse peur. Et pour eux, ça, c'est un bruit d'assurance. Pour assurer l'authenticité du salut en Jésus-Christ. Étonnant, non? Les gens n'aiment pas la liberté, finalement. Et en passant, ce qui fait pourtant notre différence, nous les protestants, c'est surtout ça, le sola, sola gratia, la grâce. Seul, si on dit la grâce, c'est autre chose, mais le sola, seul. Pas besoin d'ajouter, tout est accompli de l'Écriture. Mais non, le chrétien, lui, pense qu'il est encore nécessaire d'ajouter autre chose. Et vous allez peut-être me dire, mais ça ne me touche pas, cette histoire de Paul, pasteur, car moi, on ne m'a jamais exigé, aujourd'hui, en 2019, de faire la circoncision comme à l'époque. Oui, peut-être. Mais il y a encore tant d'autres listes, tant d'autres choses qui ont été évoquées au temps de Paul. Par exemple, comme les restrictions nutritionnelles, le respect du Shabbat et tous ces interdits, il y en a plusieurs. Avec toutes ces différentes lois que les gens aiment juste les adopter pour se faire valoir plus que les autres. Mais par la suite, il y a aussi l'autre bord que Paul anticipe déjà dans sa mise en garde face à sa prise de position contre les légalistes. Il voit déjà venir les petits malins qui vont profiter de son enseignement pour véhiculer un certain laxisme, en prenant comme argument d'autorité la virulence de Paul vis-à-vis des légalistes. Vous voyez, Paul, lui, il dit la grâce seule, donc tout est permis. C'est justement pour cela que Paul dit au verset 13, mes frères, vous avez été appelés à la liberté seulement. Que cette liberté ne devienne pas un prétexte pour la chair, mais par amour, faites-vous plutôt esclaves les uns des autres. Étonnant comme propos, puisqu'il vient de dire que c'est idiot de revenir à l'état d'esclavage vis-à-vis de la loi, lorsqu'on a reçu la liberté. Or, ici, il dit, faites-vous esclaves des uns et des autres. Comme si c'est un peu contradictoire. La libération que les croyants ont reçue est une libération vis-à-vis du joug et du poids de la loi. Voilà la liberté que tu as reçue. Tu n'es plus sous la condamnation de la loi. Tu n'es plus sur le poids de la loi. En d'autres termes, il ne s'agit plus de la contrainte de la loi. On n'est plus sous une menace, on n'est plus sous une sanction, mais on est sous la grâce de Dieu. Et il accomplit le contenu de l'esprit de la loi. Dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6, il est dit, « C'est lui qui nous a rendus capables d'être serviteurs de la nouvelle alliance, qui ne dépend d'une loi écrite, mais de l'Esprit Saint. » Et écoutez bien la suite, « La loi écrite mène à la mort, mais l'esprit de la loi mène à la vie. » Voyez, le curseur a changé. Nous ne sommes plus au service de la loi, mais au service de l'esprit de la loi. Voyez, c'est plus la loi qui est écrite, mais l'esprit de Dieu qui a donné cette loi. C'est là que nous devenons esclaves de cet esprit. Le Christ a purifié ou a remis à sa juste place la loi. Quelle est la place de la loi? La loi n'a pas été donnée pour juger, pour condamner. La loi, c'est aimer Dieu tout son âme, de toute sa pensée, et aimer son prochain comme soi-même. C'est le schéma Israël. Écoute, ô Israël, tu aimeras ton Dieu de tout ton âme, de toute ta pensée, de tout ton être. Alors, qui aurait pu imaginer que l'amour et la loi, finalement, sont compatibles? Avant, on croyait que la loi, c'est l'ennemi. Et l'amour de Dieu, c'est l'antidote de la loi. Non! La loi est la conséquence de l'amour. C'est cela la libération totale, chers amis. La seule chose qui doit nous dicter dans tout ce que nous faisons aujourd'hui, demain, vis-à-vis de nos frères et sœurs, vis-à-vis de notre pays, vis-à-vis de nos voisins, c'est la loi de l'amour. Si vous faites quelque chose sans la loi de Dieu, sans l'amour de Dieu, ça ne sert à rien. Ce que nous faisons, quelle que soit sa taille, quel que soit le nombre, ça ne compterait pas sans l'amour. N'est-ce pas ce que Paul martèle dans son épître aux Corinthiens? Vous le savez tous, l'hymne de Paul, 1 Corinthiens 13. Supposons que je parle des langues des hommes et même celles des anges. Si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. De plus qu'un métal qui résonne et qu'une cymbale bruyante. Je pourrais transmettre des messages reçus de Dieu, posséder toute la connaissance, comprendre tous les mystères. Je pourrais avoir la foi capable de déplacer les montagnes. Si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. Je pourrais distribuer tous mes biens aux affamés et même livrer mon corps aux flammes. Si je n'ai pas d'amour, cela ne me sert à rien. À regarder cette liste, elle est impressionnante. Mais tout ce que nous venons d'entendre ne compte pas si nous ne l'avions pas fait par amour, mais par contrainte. La question que je vous pose et que je me pose à moi-même est la suivante. Finalement, pourquoi l'obéissance de la loi par contrainte devient-il un péché? Vous imaginez, vous êtes en train d'accomplir la loi de Dieu une par une, mais vous l'avez fait sous contrainte, alors ça devient un péché. Même le fait de venir au culte devient un péché si vous le faites par contrainte. Même le fait de prier avant de manger, si vous le faites par contrainte, c'est un péché. Vaut mieux ne pas prier. Et ainsi de suite, la liste est longue. Donc ce n'est pas l'acte en elle-même qui est le plus important, c'est le pourquoi vous l'avez fait. Est-ce que c'est par amour ou par contrainte? Et encore une fois, derrière toutes ces applications de la loi, la finalité est centrée sur nous-mêmes, sur la valeur de l'ego, le moi. Et n'est-ce pas cela la définition du péché? Moi avant toute chose. Je fais ceci, je fais cela pour que Dieu soit content de moi. Vous voyez, l'objectif, ce n'est pas d'aimer Dieu, c'est pour que je reçoive, pour que je devienne quelqu'un d'important devant les autres et devant Dieu. Alors Dieu devient secondaire, c'est moi d'abord. Et donc vous voyez, il ne suffit pas d'obéir à une loi quelconque dans la Bible, mais elle est orientée vers quoi d'abord cette obéissance? Quelle est la motivation qui te pousse à le faire? Chers amis, nous pouvons être plus fiers de la foi chrétienne car elle dépasse largement au-dessus de toutes les religions. Ça nous convient parfaitement. Moi, personnellement, quand j'entends les politiciens et les philosophes qui disent qu'il faut mettre en dehors de la sphère publique la religion parce que c'est quelque chose qui touche le privé, oui, ça c'est la place de la religion. Mais la foi chrétienne va au cœur de la vie quotidienne. La foi chrétienne n'est pas dans le paraître. Juste remplir des cases. Comme Jésus qui était venu demeurer chez Zachée, il est venu chez Zachée, non pas pour lui dicter ce qu'il devait faire. Vous voyez, Jésus dit, je dois venir chez toi aujourd'hui, Zachée. Donc on se dit dans notre tête, ah, il va recevoir des leçons aujourd'hui, ce gars. Non, le Christ est venu pour manger. C'est tout. Et on se dit, mais si on était à la place de Jésus, on était, mais tu es Jésus, non? Ton boulot, c'est de faire convaincre les pécheurs. Mais comment ça se fait que tu te tais? Et même les pharisiens disent, ah, mais votre maître, il est l'ami des pécheurs. Il aime boire, il aime manger, le Jésus. Pendant le repas, le gars, il se lève. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a eu. Il est parti dans sa pièce, dans sa chambre. Il est revenu avec un sac et dit, Jésus, voilà tout ce que j'ai pris. Et Jésus a dit, lui aussi, il est le fils d'Abraham. Vous voyez? Pas besoin de mots. Pas besoin de leçons de morale. C'est l'amour de Dieu qui nous rend captifs. Et quand on est captif de l'amour de Dieu, je vous assure, cette personne-là ira loin dans la foi. Plus loin même que ceux qui dictent les leçons de morale. Voilà un vrai croyant. Au vrai cœur de sa vie. Et sa vie qui a été bouleversée puisque le Christ était là. Alors aujourd'hui aussi, pour la fin de notre année académique, que le Christ ne soit pas un poids pour toi. Suivre le Christ ne devrait pas être une contrainte. Ça doit être ta joie. Ça doit être un besoin. Ça devrait être quelque chose où tu ne peux plus t'en passer. Et voilà, c'est pour ça que j'ai choisi le thème aujourd'hui, esclave de l'amour. Quelqu'un qui est fou amoureux, je vous le dis, il fait plus qu'on lui demande. Pas besoin de lui dicter ce qu'il doit faire. Pas besoin de donner une liste. Il fait plus qu'on l'imagine. Que la grâce de notre Seigneur soit avec vous. Amen.